Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
À l'écoute de Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour la deuxième et dernière partie du compte-rendu de la déambulation littéraire qui a eu lieu à Vézelay le 2 août dernier. Déambulation littéraire organisée dans le cadre du festival Nature en Livre, proposé par l'association Hôtellerie de la Tour. L'association Hôtellerie de la Tour a été créée par Gertrude Dodard qui organise avec une centaine d'adhérents mais surtout avec l'appui d'un comité littéraire, c'est la cinquième année d'ailleurs, elle organise des manifestations littéraires et artistique dans les communes de Lyon, mais également dans les communes de la Nièvre. L'association a son siège social dans la Nièvre, très précisément dans le village de Monceau-le-Comte. Et cette association, chaque année, a pour but de proposer des rendez-vous littéraires et artistiques. Et l'objectif est de diffuser la littérature de manière conviviale, en s'adressant à un public qui n'est pas forcément un public déjà érudit et cultivé, mais de toucher un large public avec, très important, la valorisation de la nature. Le festival s'appelle Nature en Livre. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer, à travers des enregistrements, un compte-rendu d'une des manifestations de ce festival Nature en Livre. C'est la déambulation littéraire qui a eu lieu à Vézelay le 2 août dernier, et qui nous a permis de rencontrer l'écrivain, médiéviste, philologue, professeur de littérature et académicien Michel Zinck, qui occupe le fauteuil 37 à l'Académie française depuis décembre 2017. Michel Zinck, qui est effectivement venu à l'invitation de Gertrude Dodard, commenter le tympan dans le narthex de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Michel Zinck.
Et on ne voit pas, peut-être à première vue, qu'il est unique. Il est unique formellement et sur le fond, les deux allant ensemble. Sur le fond, la plupart des tympans dans ces églises romanes représentent soit le jugement dernier, comme à Autun, qui est vaguement imité sur le tympan de Viollet-le-Duc en façade au XIXe siècle, soit à Conques ou partout. On a le Christ, le jugement dernier, les élus à sa droite, les damnés à sa gauche, Saint-Michel et sa balance, etc., les diables. Bon. Et puis, il y a des tympans où on voit le Christ en gloire, quelquefois avec les vieillards de l'Apocalypse, comme à Moissac, généralement avec le tétramorphe, c'est-à-dire les quatre animaux du livre de Daniel, qui sont repris comme les symboles des quatre évangéliques, des quatre évangélistes. Avec mon déclin cognitif, ma langue fourche, comme je disais plus souvent. Et le lion, l'ange ou l'homme et l'aigle, ça, ou plutôt l'ange ou l'aigle, puisque c'est Matthieu. Bref. Et alors là, d'abord, je commence par la forme. Sur ces tympans, le Christ est au centre, assis, toujours. Comment est-il assis ? Ben, il est assis comme ça, comme on est assis normalement. Sauf que comme ce sont des bas-reliefs, il est très difficile de montrer les genoux qui saillent. De sorte que généralement, on le voit par exemple très bien à Servons, tout près de chez nous, le Christ a les jambes écartées et avec, on voit les plans, les plis de son vêtement entre les genoux. Ce n'est pas très élégant. Et là, et le cas, ma connaissance est unique, il est représenté assis, mais les jambes de côté, et les genoux serrés comme une dame en jupe droite assise sur un canapé, si vous voulez, sauf que c'est vraiment... Et donc le geste est beaucoup plus élégant pour la beauté. Et on voit mieux aussi qu'il est assis sur un siège qui, en fait, est un bâtiment, en somme, qui ploie sous son poids. Et c'est la Jérusalem céleste. Donc le Christ est aux cieux et ses mains, enfin il y en a une qui a été brisée à la Réforme ou à la Révolution, sort de sa mandorle, mais sinon on voit bien la main droite qui sort de la mandorle et des rayons qui tombent sous les personnages qui sont en dessous. On voit aussi, je ne sais pas, il y a des reflets, si vous regardez sur sa hanche et sur son genou gauche, le vêtement fait des tourbillons. Ces tourbillons sont impossibles. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous aurez du mal à avoir ce genre de tourbillon sur la hanche ou sur le genou. Eh bien, cela représente le Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit qui fait tourner en rond le tourbillon du Saint-Esprit, qui fait tourner le vêtement. Et du coup, ce qui sort de la main du Christ, ce sont les rayons de l'Esprit-Saint. C'est un tympan de la Pentecôte. Le Christ est déjà monté au ciel à l'ascension et il envoie l'Esprit-Saint sur les apôtres qui l'entourent. Et vous voyez à sa droite, le premier c'est Saint-Pierre, reconnaissable à ses clés, naturellement, et qui est le seul dont l'auréole entre dans la mandorle du Christ. Les autres, vous voyez, celui qui est à sa gauche, il y a une juxtaposition, hein, mais ça ne pénètre pas. D'ailleurs, on voit bien celui à sa gauche a les genoux, les jambes disposées, comme je disais, selon la formule classique. Bon. Donc, la Pentecôte et l'Esprit qui tombe sur les apôtres. Et à quoi sert la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte lance, en somme, la prédication des apôtres pour la conversion des Juifs qui sont à Jérusalem, où ils sont, mais aussi des Juifs de la diaspora, déjà, qui sont venus à Jérusalem pour prier, et aussi d'étrangers qui viennent de partout. Et donc, il y a des Juifs et des gentils. Et le miracle de la Pentecôte, c'est que les apôtres s'adressent à tous ces pèlerins et que tous comprennent chacun dans sa langue. Eux parlent hébreu ou araméen, enfin la langue vulgaire, et chacun les prend dans sa langue, et le texte des Actes des Apôtres, que certains d'entre vous connaissent certainement, précise comment cela se fait-il. Nous tous, Perses et Élamites, habitants de la Libye proche de Cyrène, etc., partent, hein, tous nous entendons dans notre langue la parole de Dieu. Et c'est ce qu'illustre le reste du tympan. Le reste du tympan illustre tous les peuples auxquels la bonne nouvelle, comme on dit, c'est-à-dire l'évangile en grec, s'adresse. Et alors, voyez, en bas, sur le linteau, vous avez divers personnages. Bon, je ne suis pas assez savant pour interpréter tout le monde, mais ce qu'on voit très nettement, c'est que près de la statue centrale sur laquelle je reviendrai, il y a des païens classiques avec un bœuf qu'ils vont immoler. Vous voyez, on voit le bœuf là, juste sous les pieds là, de Saint-Pierre. Bon. Mais de l'autre côté, on voit aussi des personnage plus étrange. On voit pas bien parce que la jambe est coupée. On voit un géant avec un bouclier qui est si grand que sa jambe traîne par terre. Et à côté de lui, un pygmée qui est obligé d'avoir une échelle pour monter à cheval. Voyez. Et il a un vêtement qui s'envole de façon très caractéristique qu'on retrouve sur des chapiteaux. Et complètement à droite, vous avez une famille de panotides. C'était des gens dont on parlait beaucoup à l'époque. Panotides, c'est-à-dire pas, pan, tout, c'est-à-dire quelque chose de très grand, la totalité, et osotos, vous savez, l'oreille, voilà, un otorino. Bon. Et les panotides, c'était des êtres qui avaient de très grandes oreilles. Ils avaient de si grandes oreilles qu'on disait que pour dormir, ils utilisaient l'une comme matelas et l'autre comme couverture. Et on voit, il y a monsieur, madame et puis un petit enfant qui se tient d'ailleurs la jambe, curieusement. Il a une jambe en l'air qui se tient. Bon. Et quand j'étais enfant moi-même, mes grandes sœurs me disaient que c'était ma vraie famille parce que j'ai de grandes oreilles et ça, c'est pas... Bon. Et autour, dans les cloisonnements rectangulaires, on continue à avoir tous ces êtres, tous ces hommes à qui s'adresse la bonne parole. Alors on identifie, il y a des Arméniens, il y a de ceci, de ça. Je ne suis pas assez savant. Mais ce qu'on voit très bien, là, immédiatement à gauche, vu de nous, de la tête du Christ, on voit un couple de cénocéphales, c'est-à-dire des hommes à tête de chien. Ken, le chien, céphalait la tête, comme vous savez, voilà. Et il y en a un, l'un qui se retourne, madame, et monsieur, les jambes croisées. Bon. Et qu'est-ce que cela nous dit ? Eh bien, ça nous dit que ces artistes et ces commanditaires, au XIIe siècle, voulaient faire sentir que la parole, la bonne nouvelle, en somme, la parole du Christ, s'adresse à tous. Mais à tous, qu'est-ce à dire ? Bon, les païens, c'est facile. Mais les êtres qu'on pouvait considérer comme monstrueux, dont on pouvait se demander s'ils étaient hommes, où s'arrête l'humanité ? C'était une question importante qui se posait toujours avant. Eh bien, ici, la vision est très englobante. Un géant, un pygmée, bien sûr, ce sont des hommes. Bien sûr, ils sont appelés au salut. Des panotides avec leurs oreilles ridicules, bien sûr. Et même les cynocéphales à tête de chien, eux aussi, sont appelés au salut. C'est vraiment... Et donc, il y a une leçon, enfin pour dire, qui peut paraître singulièrement large d'esprit pour une époque qu'on répute si étroite. Et alors, dans les médaillons, tout autour, mais vous voyez ce contraste très bien entre la grande taille du Christ et des apôtres, et puis cette délicatesse des personnages autour et de la petite frise. Autour, on a de façon classique les signes du zodiaque et les travaux des champs. On voit les poissons et un homme qui est en train de tailler la vigne, et puis, etc. Enfin, on les voit tous, je passe là, de l'autre côté du Christ, là, on voit la moisson est faite, et non, il lit la gerbe, et plus bas, il bat le blé avec un fléau, et le fléau sort sur le médaillon précédent, c'est très bien fait. Et si vous regardez le troisième petit médaillon en partant du bas, vous voyez un personnage qui en tient un autre sur ses épaules. Voyez-vous, et le troisième en partant du bas. Et on est au bout de l'année qui a commencé ici. C'est l'année nouvelle qui porte l'année ancienne sous la forme d'une vieille femme sur ses épaules. L'année ancienne va mourir, en somme, mais est encore là, et l'année nouvelle l'aide, en quelque sorte, et la porte jusqu'au bout.
Michel Zinc, à l'instant, enregistré le 2 août 2025 dans le narthex de La Basilique, dans le cadre de la déambulation littéraire qui s'inscrivait dans le cadre du festival Nature en Livre, organisé par l'association Hôtellerie de la Tour. Un moment rare, je voudrais d'ailleurs remercier Didier Carco de l'association qui a tenu le micro de Wagon Livre et qui vous a permis et qui va vous permettre encore d'entendre Michel Zinc. On marque un premier intermède musical dans ce Wagon Livre et on se retrouve juste après avec l'académicien Michel Zinc, Festival Nature en Livre, compte rendu aujourd'hui sur votre radio locale sur Radion.
D'enfants, il n'y a pas la passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les sculptures des portails romans de la nef de Vézelay, le Christ au centre et les portails latéraux composent sur la façade de la nef une savante homélie de pierre. Ainsi, maçons, sculpteurs et peintres ont-ils doté Vézelay, foyer d'innovation en matière de sculpture, de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art européen du XIIe siècle. Je vous propose de retrouver, enregistré le 2 août dernier, l'académicien Michel Zinc, convié par l'association Hôtellerie de la Tour dans le cadre du festival Nature en Livre à cette déambulation littéraire qui se terminait presque dans la basilique de Vézelay. Je vous propose donc de retrouver notre académicien invité par Gertrude Dodard, fondatrice et présidente de l'association Hôtellerie de la Tour, organisatrice du festival Nature en Livre.
Au centre, la grande statue mutilée à la Réforme, c'est Saint Jean-Baptiste, qu'on reconnaît au fait qu'il porte un baptistère, une inscription en bas. Et en bas, il y a exhorté les évangélistes, et puis là, Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Pierre reconnu à ses clés, et Saint-Paul reconnaissable toujours au fait qu'il est à moitié chauve, parce que, complètement, parce que dans les Actes des Apôtres, on dit qu'à un moment, il avait fait vœu de se raser la tête, et enfin, on ne le signale pas à ce moment-là, mais on dit qu'à ce moment-là, il lui arrive je ne sais pas quoi de bien, alors il renonce à son vœu, il recommence à se faire pousser les cheveux, ce dont je le félicite, moi je n'en serais pas capable. Bon.
Ils ont leur petite robe qui bien voile tout.
Et ils ont alors toujours les petites robes. Alors, l'artiste est fier de montrer son habileté à faire ses nœuds, et un peu à l'antique, mais ce vent qui vole, on en retrouvera la signification aux petits tympans. On regarde, on jette un petit coup d'œil aux deux petits tympans. C'est traditionnellement ici, côté sud, le tympan de la Vierge. Il y a toujours un petit tympan. Mais il est là particulièrement recherché, particulièrement bien fait. D'abord, il y a toutes les scènes. On voit, en commençant en bas à gauche, vous avez l'Annonciation, l'ange et la Vierge qui se retournent. Puis, la Visitation. Mais on voit la Vierge et Élisabeth. Et la Vierge qui a, là, on voit des plis de vêtements plus élaborés qu'Élisabeth, qui est plus enceinte qu'elle. Enfin, on voit que ça prend un peu. Bon. Et entre les deux, assez curieusement, cette jolie église avec son clocher, hein, et ce qui est attendrissant, n'est-ce pas, un toit de tuiles romaines, vous voyez, un toit de tuiles rondes. Et puis, à côté, la Nativité. Donc, on a les bergers qui arrivent avec les anges qui annoncent la naissance du Christ. Et puis, dans la crèche qui ressemble à l'abside d'une église, et on le retrouvera sur l'autre petit tympan, normalement, eh bien, on voit la Vierge allongée, l'enfant emmailloté et sous la garde d'une femme, et Saint-Joseph, qui me frappait toujours enfant parce qu'il a la tête dans la main comme ça, et je me disais, il n'a pas l'air très content, il se demande ce qui lui arrive. Mais je me trompais, car ce geste, dans l'iconographie du Moyen-Âge, dans les sculptures ou sur les miniatures, eh bien, on voit toujours les mêmes gestes qui ont une signification. Et ce geste-là, on appelle la main à la macelle, la main à la mâchoire, donc avoir le menton dans la main, eh bien, ça indique quelquefois, ça peut quelquefois indiquer la tristesse, mais ça indique généralement la méditation. Et donc, Saint-Joseph médite sur le mystère, et alors on fait remarquer, par exemple, que sur la petite étoile qui a l'air d'une fleur, qui est au-dessus de la tête de Saint-Joseph en biais, eh bien cette petite étoile, alors on fait toujours remarquer ça dans les églises, est éclairée à toute heure du jour, ce qui est vrai d'ailleurs. Et autour, il y a, alors caractéristiquement, aussi, là aussi, ces très grosses fleurs, en contraste avec la finesse du tympan. Et en bas, alors là, ce sont des choses curieuses, là, vous avez deux anges, celui de gauche est particulièrement beau et parfaitement connu, il est connu sous le nom de celui-là, il est connu sous le nom de l'ange à l'olifant, il a effectivement un corps à lui, comme pour annoncer la bonne nouvelle, et vous voyez ces chapiteaux habilement faits, parce que le volume du chapiteau est difficile à utiliser, mais il a utilisé le pan coupé, enfin l'angle en somme, pour projeter les bras et les ailes de l'ange de chaque côté et lui donner cet élan très remarquable. Mais on a aussi un archer, et puis on a là, et alors c'est ce bestiaire étrange qu'on trouve dans l'église, une sirène moustachue, vous voyez. Et elle est là, une sirène poisson, et une sirène poisson, donc médiévale. Les sirènes de l'Antiquité, celles de l'Odyssée, sont mi-femme, mi-oiseau. Et au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge les connaît, ils s'appellent sereines, puis on passe de sereine à sirène, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, il y a un mystère des sirènes au Moyen-Âge, enfin là, il y en a une bonne. Et ne nous égarons pas. Et non, la sirène est féminine. Alors là, c'est un oui, oui, bah c'est je ne sais pas quelle est son orientation, mais enfin, bon, restons-en là. Et je passe de l'autre côté. Et le, pardon. Et vous voyez, là, c'est un peu comme à Autun, ces colonnes, à Autun plus systématique, une colonne un peu à l'antique, une colonne cannelée qui n'est pas là. Et que, ça, comme à Saint-Lazare d'Avalon, où vous avez cette sorte de baroque roman, des colonnes cannelées sur la façade, des colonnes cannelées, des colonnes en forme de chaîne tout à fait tordue, etc. Cette sorte de baroque roman. Bon, là, on n'en est pas là, mais on trouve à certains endroits ça. Et cette variété dans les futes colonnes. Et là, donc, le symétrique de la nativité, c'est la fin de l'histoire, ou de, comme on dit dans les sermons médiévaux en français, du temps où notre Seigneur allait corporellement en terre. Et bien, la fin de cette période. Et en bas, ce sont les pèlerins d'Emmaüs, de l'évangile de Saint-Luc. Vous savez, après la mise en croix et l'ensevelissement du Christ, deux disciples tout tristes vont se rendre à un village via Emmaüs, et puis quelqu'un les rattrape en route et leur dit « Pourquoi êtes-vous tristes ? Ah, ben, t'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé, ce grand prophète Jésus, voilà, il a été enseveli. Des femmes de notre groupe disent bien qu'on l'a, qu'il n'est plus dans son tombeau, mais enfin, en tout cas, on ne l'a pas revu. Bon. » Et puis, ils arrivent à l'auberge, et cet homme mystérieux fait semblant de vouloir continuer. Et ils lui disent « Seigneur, reste avec nous, car le soir tombe. » Et donc, il les accompagne à l'auberge, et à ce moment-là, il partage le pain et il leur donne. Et à ce moment-là, ils reconnaissent que c'est le Christ. Et ils reprennent leur route, comme on le voit sur la dernière image, en disant « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en chemin pendant qu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Parce qu'en chemin, il lui a dit « Mais vous n'avez pas compris. » Il leur citait les Écritures en disant « Il fallait que ça se passe comme ça, que Christ soit crucifié et qu'il ressuscite. » Et alors, donc, là encore, comme à la crèche, l'auberge est comme l'abside d'une église, et donc c'est comme un autel, et l'auréole du Christ est marquée de la croix, et il partage le pain. Bon.
Enregistré le 2 août 2025, l'académicien Michel Zinc, qui participait à la déambulation littéraire de Vézelay, organisée dans le cadre du festival Nature en Livre par l'association Hôtellerie de la Tour. Il avait donc été convié par Gertrude Dodard. Michel Zinc, qui a une maison de vacances dans la Nièvre, à Lormes précisément, et qui est venu donc à Vézelay. Et vous allez l'entendre juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, commenter un certain nombre de chapiteaux romans de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Ces chapiteaux taillés au rythme de la construction de la nouvelle nef, quelques 200 chapiteaux ornent l'abbatiale. Regroupés par thème, vices et péchés, combats contre le mal, épisodes de la vie des saints et ermites, ils composent un authentique cheminement spirituel et constituent un des sommets de l'art roman. Wagon Livre sur Radion, compte rendu de la déambulation littéraire à Vézelay du 2 août 2025 organisée par l'association Hôtellerie de la Tour dans le cadre du festival Nature en Livre. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous allons retrouver l'académicien, philologue, historien, écrivain Michel Zinc, invité au festival Nature en Livre, notamment lors de la déambulation littéraire à Vézelay qui a eu lieu le 2 août 2025 dernier. Un festival organisé par l'association Hôtellerie de la Tour, et c'est Gertrude Dodard qui a invité Michel Zinc, qui est venu de l'Orme où il a une maison secondaire. Il est venu jusqu'à Vézelay, au sommet de la colline éternelle, pour évoquer un certain nombre des chapiteaux de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, et notamment dans l'extrait qui va suivre, Michel Zinc évoquera le chapiteau du moulin mystique.
Nous allons passer devant des chapiteaux, et je vous dis dès maintenant ceux sur lesquels j'attirerai votre attention. Il y en a que je ne pourrai pas vous montrer, qui sont intéressants, parce qu'ils sont trop près du cœur. Bon. En particulier, côté nord, enfin c'est une anecdote, mais un chapiteau qui représente Sainte-Marine ou Sainte-Eugénie, c'est la même légende. Et on voit une femme dépoitrariée comme ça devant un monsieur qui se gratte la tête. Le père, il y avait une fois un homme qui est resté veuf avec une petite fille, un bébé. Donc il s'est fait moine, il est entré au monastère, mais il a dit que cette petite fille était un garçon, sinon on ne l'aurait pas accepté dans un monastère d'hommes. Et donc cet enfant a été élevé au monastère comme un garçon. Et puis à l'âge adulte, ben, l'enfant s'est fait moine. Un si bon moine que l'enfant a été élu abbé du monastère. Et un jour, une jeune fille du village voisin a accusé l'abbé de l'avoir mise enceinte. On a traîné, donc ça est très moderne, on a traîné l'abbé devant le juge, et l'abbé a ouvert son froc, sa robe, ça, et a montré donc que ce n'était pas possible. Enfin, voilà. Et donc c'est une enceinte des chapiteaux que nous ne verrons pas. Alors celui, bon, le plus célèbre, je ne sais pas si on défilera, c'est le chapiteau dit du moulin mystique. Et vous verrez, on voit deux personnages. En haut, un personnage penché, en tunique courte, qui verse un sac de blé dans l'entonnoir, l'embouchure d'un moulin. Et puis, en dessous, un autre personnage, comme ça, avec une toge, un vêtement humble, avec ses tourbillons, chauve, qui tend un sac sous le déversoir du moulin. Bon. Et puis sur le côté, la roue du moulin, petit trou. Bon. Et alors, il faut savoir, c'est Moïse qui verse le grain de l'ancienne alliance dans le pressoir de la croix du Christ. Et Saint Paul, en dessous, qui recueille la fine farine du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et si on regarde, on voit que là, au milieu, la petite croix, la petite roue du moulin a des rayons qui forment la croix. Et que vous verrez le mouvement vraiment admirable du chapiteau, parce qu'il y a comme un cercle autour de ce moulin, le mouvement de Moïse et sa barbe, le mouvement de saint Paul penché, de son visage, de sa barbe, de son coude, et le mouvement du chapiteau est magnifique. Et enfin Moïse est en tunique courte, parce qu'il est encore esclave de l'ancienne loi, et saint Paul est en toge pour deux raisons. D'abord parce qu'il est assis citoyen romain, il le fait assez valoir, il est citoyen romain, donc il a droit à la toge, et d'autre part, c'est un homme libre, il est libéré par la révélation du Christ. Alors, bon. Donc on voit qu'on dit, les sculptures des églises, c'était la Bible des illettrés. C'est pas tout à fait vrai. D'abord parce qu'on y trouve des inscriptions. Et en plus, parce que il y a des choses qu'il faut vraiment savoir pour comprendre un chapiteau pareil. Et donc, c'était plutôt l'ordre inverse. C'est-à-dire que le bon peuple allait à la messe, écoutait les sermons, d'abord la paraphrase de l'évangile qu'on lui traduisait, les sermons qui lui expliquaient. Et donc, il connaissait des choses de la Bible et de son sens, et c'est comme ça qu'il pouvait comprendre les chapiteaux. Nous verrons aussi, alors bon, autour peut-être, il est un peu avant, un chapiteau, là c'est plutôt pour la beauté du chapiteau, qui représente la conversion de saint Eustache ou de saint Hubert, c'est le même personnage. Et on voit donc le saint à cheval et le cerf qu'il poursuit. Bon. Et il poursuivait un cerf et qui voulait tuer, et ce cerf avait, à la place où, en même temps que ses corps, une croix sur la tête. Et il l'a suivi, et c'était le Christ qui l'a converti. Et alors, on voit le chasseur sur son cheval, et son chien qui poursuit le cerf, mais qui l'entraîne vers ce cerf qui se retourne en souriant à moitié, avec sa croix sur la tête, et la laisse du chien va du cheval jusqu'au cerf, entraîne comme le chien qui est sur ses pattes de derrière le chasseur, mais il y a le tronc d'un arbre qui fait comme couper la corde, ou enfin elle passe devant, mais quand même, avec des feuilles qui ressemblent à des feuilles de vigne, comme il dessine, comme il le représente souvent. Et donc il y a une feuille à l'extrémité pointue sur la tête du saint, et c'est probablement le diable qui essaye de le séparer du Christ, et avec sa tête, un peu de cette feuille un peu serpentine qui est sur lui. Vous verrez aussi, juste après, il a son pendant de l'autre côté, la mort de Lazare et du mauvais riche. C'est la parabole, il y avait un homme riche qui vivait dans la débauche, etc. Et avec des vêtements somptueux, qui entretenait des courtisanes, etc. Et à sa porte, il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Il aurait bien voulu revoir les déchets du banquier du riche, mais on ne lui donnait rien. Et simplement, il y avait des ulcères et les chiens venaient lécher ses plaies. Avait seul, bon. Et tous deux meurent. Alors il y a un chapiteau, mais la première série, ça, je ne raconte pas l'histoire de la basilique, des chapiteaux plus maladroits qui ont été réutilisés après un incendie au milieu du XIIe siècle, quand on a refait l'état actuellement. Mais on verra un chapiteau très beau. Là, alors, la fin de l'histoire, c'est que le mauvais riche et Lazare meurent. Voilà. Et le mauvais riche va en enfer, Lazare au paradis. Et de là où il est, le mauvais riche voit Lazare dans le sein d'Abraham. Et il dit, Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de le mettre sur mes lèvres parce que je brûle terriblement. Et Abraham lui dit, t'as été heureux dans ta vie, maintenant t'es là, puis de toute façon on ne peut pas, etc. Et a dit, alors envoie Lazare dire à mes frères, j'ai 5 frères, qu'ils ne doivent pas vivre comme moi, qu'ils doivent se convertir. Et Abraham dit, mais ils ont l'écriture, les prophètes qui peuvent leur dire ça. Eh bien oui, mais c'est pas la même chose que s'ils voient Lazare. Et s'ils n'écoutent pas l'écriture et les prophètes, eh bien Lazare pourrait ressusciter des morts. Il ressuscite des morts ailleurs, mais chez Saint Jean, là, c'est chez Saint Luc, il ne croirait pas. Et alors, on voit la mort des deux. Et Lazare meurt, et les anges emporte son âme qui est dans une petite mandorle. Il est déjà saint, il est déjà au paradis. Et tandis que les diables arrachent l'âme du mauvais riche qui ne veut pas mourir, ils lui arrachent de la bouche avec des forceps parce qu'il ne veut pas mourir. Et dans le bois, il est couché dans son lit, le mauvais riche, lui il a un lit, et dans le bois du lit est passée l'anse d'un panier. Il y a un panier qui pend. Et puis un gros ver sur le panier, très énorme. Parce qu'il est écrit dans l'Évangile, n'amassez pas des trésors sur terre, que la rouille les ronge et le ver s'y met, hein, amassez-vous des trésors qui ne se corrompent pas dans le ciel. Vous verrez, je ne sais pas si on ira, ah oui, il y en a un. On verra Saint-Martin avec les bûcherons qui essayent de l'écraser sous l'arbre qu'ils abattent, et cet arbre, curieusement, est un palmier. Alors que, comme chacun sait, Saint-Martin était de Tours. Non, il n'y a pas de palmier, mais c'est pas grave. Et oui, et dernier, donc je... bon, et puis il y en aura un autre enfin. Et on passera juste devant. Jérémie. L'histoire d'Isaac, Ésaü et Jacob. Vous savez que Isaac, le deuxième patriarche, le fils d'Abraham, a 2 fils. L'aîné Ésaü est un chasseur très velu, très fort, et avec un petit poids dans la tête. Et l'autre est Jacob, qui est plus malin, mais très malin. Bon. Et la mère, Rachel, voudrait que ce soit Jacob qui succède à son père, pas Ésaü. Bon. Et un jour, Ésaü rentre de la chasse très affamé. Et son frère, Jacob, lui dit, j'ai fait un plat de lentilles, je te donne mes lentilles. Bon. Et Ésaü a tellement faim, tellement bête, je te donne mes lentilles, si tu me vends ton droit d'aînesse. Et Ésaü a tellement bête, mais enfin qu'il accepte. C'est aussi qu'on dit vendre ceci ou acheter ceci pour un plat de lentilles. Ça se dit encore. Bon. Et ensuite, Isaac, lui, n'est pas au courant. Et alors, quand Isaac, très vieux, se prend de mourir et il est aveugle, Rachel, la mère, revêt Jacob d'une peau d'ours ou d'animal sauvage et l'envoie se faire bénir par Isaac en disant qu'il est Ésaü. Et Ésaü est très velu. Alors Isaac tâte, c'est poilu. Et puis il dit, ah oui, tu es bien mon fils Ésaü, il le bénit. Et alors on voit ça sur le chapiteau, avec la mère derrière qui espère que ça va marcher, etc. Le seul qu'on regardera de ce côté, parce qu'on n'a pas le temps pour regarder, c'est le veau d'or, où on voit Moïse qui descend du Sinaï en tenant les tables de la loi, mais avec un bâton, quoi, qu'il tient derrière son dos, comme ça, pour taper, pour détruire le veau d'or et taper éventuellement sur les Hébreux. Et puis on voit le veau d'or et un petit diable avec un petit rire, hein, comme ça, amusant, qui sort de la bouche du veau d'or parce qu'il voit arriver Moïse et qu'il se méfie. Bon. J'ai oublié peut-être. Ah oui, hein, je ne sais pas si je le remettrai de ce côté, qui est l'enlèvement de Ganymède. Je ne sais pas si je le retrouverai, qui est une scène donc païenne. Vous savez que Ganymède était un fils de Tros, le fondateur de Troie, dont Priam, la guerre de Troie, est un des descendants. Et Zeus a remarqué la beauté de Ganymède et il l'a enlevé pour être l'échanson des dieux à la place d'Hébé, fille d'Héra, sa femme, du nom, qui était échansonne, si je puis dire, des dieux avant. Alors, dans Homère raconte ça, sans entrer sur le pourquoi du comment. Platon dit que Zeus s'était pris de la beauté de Ganymède et Xénophon dit que oui, il a trouvé Ganymède très beau, mais enfin que c'est pour sa belle âme qu'il l'a enlevé. Enfin bon, quelque chose comme ça. Alors c'est très curieux qu'on représente une scène mythologique. Alors, vous verrez d'ailleurs que le Ganymède, si vous voulez, est très bizarre parce que il est l'aigle l'enlève non pas dans sa serre mais dans son bec. Alors il le tient par le milieu du corps et ce milieu du corps est tout bout comme s'il n'avait pas de corps et qu'il tenait juste l'étoffe du vêtement. C'est assez drôle, enfin bref. Mais c'est curieux qu'il y ait cette représentation. Alors, j'en sais rien. Il y a deux hypothèses. On dit quelquefois c'est parce que Ganymède enlevé par Zeus est comme une préfiguration du Christ. Ça me paraît peu probable. Ils étaient quand même pas idiots, ils connaissaient quand même un peu leur mythologie, pas directement par le grec, mais par les adaptations latines, par Virgile, par Ovide, ils connaissaient ça par cœur. Bon. Et c'était quand même un peu gonflé de l'assimiler au Christ. Ou peut-être au contraire, ce Ganymède tout mou, enfin qui n'a pas l'air si content, eh bien, est enlevé par donc ce péché de sodomie qui était très grave. L'homosexualité était en fait assez bien admise s'il n'y avait pas sodomie. Alors là, mais en tout cas, Ganymède n'est quand même pas si représentable, si recommandable. Et les dieux païens ne le sont pas du tout recommandables. Et donc, ce serait plutôt un enlèvement d'un vice aux enfers. Je serais plutôt tenté d'interpréter comme ça, mais ce que j'en dis, hein, c'est comme ce que j'en pense, histoire de causer.
À l'instant, dans Wagon Livre sur Radion, l'écrivain médiéviste, philologue, professeur de littérature et académicien Michel Zinc, enregistré le 2 août dernier dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine, dans le cadre du festival Nature en Livre, organisé par l'association Hôtellerie de la Tour. Je rappellerai un des derniers ouvrages parus chez Jean-Claude Lattès cette année, ouvrage de Michel Zinc qui a pour titre « Quand j'étais licorne ». On se retrouve dans quelques minutes, toujours pour le compte-rendu de cette déambulation littéraire à Vézelay, avec un écrivain pour le jeune public que je vous présenterai juste après la nouvelle virgule musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas de peau. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas de peau. Le ciel coule sur. Moitié on compte à demi-demi, pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout nez, pieds et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Après avoir longuement pu entendre l'académicien Michel Zinc enregistré le 2 août 2025 dans cette déambulation littéraire de Vézelay organisée par l'association Estellerie de la Tour, festival Nature en Livre, je vous propose maintenant d'entendre Emmanuel Grunemann, qui a participé à la déambulation littéraire et qui était parmi les auteurs invités. Par Gertrude Dodard, présidente de l'association. Emmanuel Grunemann est né en 1973, elle est diplômée en éthologie et en conservation des espèces et elle s'est lancée dans l'écriture d'histoires animalières, des histoires de forêt, d'hommes, pour partager sa fascination pour cette biodiversité et emporter le lecteur dans des rêveries suscitant la réflexion. Alors elle est venue le 2 août dernier à Vézelay, présenter ses derniers ouvrages, notamment « Ces arbres qui font nos forêts »,« Les petits bâtisseurs », publié aux éditions du Ricochet. Et pour illustrer sa volonté de transmettre l'émerveillement, eh bien, on ne peut que vous encourager à lire « S'éveiller à la nature avec un enfant », paru en 2022 aux éditions Actes Sud. En parallèle, Emmanuel Grunemann intervient régulièrement dans les écoles, les médiathèques, les centres de loisirs sur ces mêmes sujets et je vous propose de l'entendre nous raconter une histoire authentique, Les poissons chantent. Emmanuel Grunemann.
Récemment, j'ai un ami qui travaille justement sur ces chants de poissons qui m'a fait écouter des enregistrements dans la mangrove. Et c'est absolument incroyable. C'est un monde qu'on découvre, donc ils font crisser leurs écailles, leur vessie natatoire est une caisse de résonance. Ils crissent des dents aussi, et c'est vraiment extrêmement bruyant et avec des sons très particuliers qu'on ne connaissait pas du tout dans le monde des poissons. Et alors là, point de chant de poissons, mais une coopération basée sur la protection avec deux animaux, dont un poisson, le gobie. Et le gobie a des très gros yeux pour tout voir dans le lagon. Mais le gobie, il est incapable de creuser un terrier pour s'abriter. Alors, le gobie va chercher de l'aide. Et il va chercher de l'aide auprès de la crevette pistolet. Tel un bulldozer, cette petite crevette, à l'aide de ses puissantes pattes, travaille sans relâche pour creuser et consolider son logis. mais la crevette est myope comme une taupe. Et à chaque pelletée de sable, elle risque cependant de se faire croquer. Alors, elle signe un accord avec le gobie. Le poisson occupe ce logis très bien entretenu et reste au contact des antennes de la crevette dès que celle-ci travaille dehors. Et au moindre danger, il remue la nageoire. Et la crevette ressent cette petite vibration et vite, tous deux se replient au fond du terrier.
Courte séquence, mais passionnante. Emmanuel Grunemann, enregistré le 2 août 2025 dans le cadre de la déambulation littéraire de Vézelay. Je vous propose une petite virgule musicale avec Bobby Lapointe, la maman des poissons.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui, leur montrant comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À l'instant, Bobby Lapointe dans Wagon Livre, la maman des poissons. Je vous propose de retrouver Emmanuel Grunemann, enregistré le 2 août 2025 dernier. Cette fois-ci, elle va nous faire découvrir une autre histoire et elle nous emmène en Amérique subtropicale. Emmanuel Grunemann.
Je vais vous emmener en Amérique subtropicale avec un arbre qu'on appelle le parasolier. Et cet arbre est très particulier, c'est un arbre immeuble dont les tiges creuses abritent tout un petit peuple. Ce petit peuple, ce sont des fourmis aztèques. Et elles logent dans ces parasoliers et donc elles bénéficient de ce grand immeuble. Et comme il est creux, elles n'ont plus besoin de creuser leur fourmilière, et ça leur laisse du temps libre. Du temps libre pour récolter, pouponner, protéger la colonie. C'est pas tout à fait des loisirs, mais ça leur laisse quand même beaucoup plus de temps. Et en échange de cet hébergement, les insectes vont patrouiller sans relâche le long du tronc, des branches, des brindilles. Parce que là, dans ces forêts tropicales d'Amérique, les croqueurs de feuilles sont légions. Et dès qu'une langue s'approche un petit peu trop près, les fourmis accourent et bombardent l'intrus d'un cocktail chimique. Et le message est clair, pas touche. Mais ça va beaucoup plus loin, cette coopération. Et lorsque, par exemple, un paresseux va blesser une branche par mégarde, dans sa léthargie profonde, les insectes vont se transformer, se métamorphoser illico en médecins. Et ils vont appliquer sur la plaie du parasolier un mélange de salive et de végétaux qu'ils vont avoir récoltés au préalable et qui va faire un pansement, en fait, et qui va aider leur arbre immeuble à se réparer.
Et nous allons terminer ce wagon-livre compte-rendu de la déambulation littéraire de Vézelay dans le cadre du festival Nature en Livre. On va terminer encore avec Emmanuel Grunemann qui, cette fois-ci, va être question d'un petit animal que je vous laisse l'auteur nous présenter.
Voici, il est question d'un petit animal que vous connaissez qui s'appelle Bernard. Et Bernard l'ermite, il a un petit problème parce qu'il est tout mou. Il est tellement mou qu'il lui est impossible de se promener ainsi, tout nu. Parce que n'importe qui pourrait le pincer, pire, le croquer. Parce que contrairement à ses cousins, crabes ou crevettes, Bernard ne sait pas fabriquer sa carapace. Alors du coup, il se fait voleur de coquilles vides. Il entraîne souvent au bord de l'océan. Et après en avoir choisi une en guise de maison, il va plus loin. Il recueille une anémone de mer. Et il l'installe sur son toit. La belle anémone profite de ses déplacements pour pêcher sa nourriture au fil du courant. Et en échange, elle lui offre la protection de ses tentacules qui sont aussi piquants que des orties. Et lorsque Bernard grandit, forcément, il doit déménager et changer de coquillage. Mais en changeant de coquillage, il n'oublie jamais de déplacer la belle anémone sur son nouveau et plus vaste logement.
Emmanuel Grunemann, enregistré le 2 août dernier à Vézelay dans le cadre du festival Nature en Libre organisé par l'association Stellerie de la Tour. Je rappelle les titres des ouvrages d'Emmanuel Grunemann, notamment « Ces arbres qui font nos forêts » ainsi que « Les petits bâtisseurs » publiés aux éditions du Ricochet. Mentionnons également aux éditions Actes Sud « S'éveiller à la nature » avec un enfant. Je rappelle qu'Emmanuel Grunemann intervient régulièrement dans les écoles, les médiathèques, les centres de loisirs sur les sujets. Elle qui est diplômée en éthologie et en conservation des espèces. Je remercie la présidente de l'association Hostellerie de la Tour, Gertrude Dodard, et je voudrais également remercier Didier Carco, qui a tenu le micro, qui a enregistré un grand nombre des séquences sonores que vous avez pu entendre dans ce wagon-livre aujourd'hui sur Radiol. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier de votre écoute fidèle. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 11 octobre, toujours à 11h sur Radiol. Et puis si vous avez manqué cette émission, vous savez que vous pouvez aisément la retrouver en podcast sur notre site d'archives sur internet, bien sûr, yannickpetit.fr. Au revoir et à la semaine prochaine.